Jésus, tout au long de son ministère public, a accompli des merveilles qui attestaient sa divinité. La puissance dont il était nanti dépassait de loin l'entendement et les pouvoirs humains. Certains de ses disciples, inspirés par le Saint-Esprit, nous ont fait le récit de son existence ainsi que des circonstances ayant entouré les miracles faits par le Christ. En étudiant leurs écrits, on peut dégager quatre idées principales au sujet des miracles de Jésus. Premièrement, leur but était de faire connaître la foi en Jésus comme étant le Fils de Dieu. Deuxièmement, les miracles n'étaient jamais effectués dans un but égoïste ou personnel. Troisièmement, leur objectif n'était en aucun cas vain ou frivole. Quatrièmement, ces miracles avaient pour dessein primordial de convaincre les hommes que Jésus était venu sur la terre dans un but divin et bien sûr spirituel, et que ce n'est que tout à fait accessoirement que ces prodiges aidaient matériellement l'humanité. Un miracle est souvent défini comme étant quelque chose d'impossible. Il serait cependant plus exact de dire qu'un miracle représente une chose apparemment impossible à réaliser du point de vue humain, car il s'agit en réalité de l'exercice du contrôle de la matière effectué selon les lois divines. Le dictionnaire Quillet définit le mot miracle de la manière suivante. Événement contraire aux lois de la nature et qui ne peut être l'effet d'une cause naturelle. Cette définition admet en quelque sorte le fait que les hommes ne connaissent pas toutes les soi-disant lois de la nature créées par Dieu et reconnaît que l'Éternel est à même de faire ce qui est impossible à l'homme. Les récits de l'Évangile foisonnent de miracles, œuvres merveilleuses en parfaite harmonie avec la nature de Christ. Cependant, il ne manque pas de gens qui proclament que les miracles mentionnés dans le Nouveau Testament ne sont en fait que des figures de rhétorique, plus proches de la légende que de la réalité. Mais quand on considère celui qui les a accomplis, on s'aperçoit qu'on a toute raison de croire fermement à leur existence en tant que prodiges. Il n'en serait pas du tout de même si on osait affirmer que de simples êtres humains pouvaient en faire autant sans être eux-mêmes nantis de la même puissance que Christ. C'est ce qu'exprime Nicodème quand il dit « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Un commentateur biblique du siècle dernier disait « Jésus est le plus grand des miracles de tous, et si nous l'acceptons à lui, le moins que nous puissions faire est de nous approcher avec crédulité des prodiges qu'il a faits. » Les exemples de miracles sortent vraiment de l'ordinaire, et pourtant ils sont profondément humains quand on considère ce qu'ils représentent comme somme d'amour et de désir d'aider. Étudions chacun d'entre eux dans leur contexte en leur donnant Jésus pour personnage principal. Par exemple, en Marc chapitre 7, Christ guérit un sourd qui avait la difficulté à parler en levant les yeux au ciel et en disant « Ephphatha », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. À Jéricho, Jésus se penche pour guérir Bartimée l'aveugle. Il arrête la perte de sang d'une femme à Capernaum, marche sur les eaux, calme une tempête, nourrit 5000 personnes à partir de deux fois rien, ressuscite la fille de Jaïrus, le fils de la veuve de Naïn également, ainsi que Lazare. Quand nous lisons soigneusement ces récits, nous voyons qu'ils sont empreints d'une profonde simplicité qui ne peut provenir que de la vérité. Certains diront, mais si un seul de ces miracles s'avère être faux, on peut douter de chacun d'entre eux. C'est parfaitement exact, mais une supposition n'est nullement une preuve. Et nous pourrions rétorquer que si l'on accepte un miracle, un seul, il n'existe aucune raison pour ne pas les accepter tous. Si l'on admet l'existence historique de Jésus, et même le sceptique le mieux informé y est forcé, on peut également accepter ces miracles. Rien ne permet d'expliquer les miracles de Christ, mais tout s'éclaire dès qu'on accepte le fait qu'il était le Fils de Dieu. On ne peut en effet croire en Jésus sans croire en même temps qu'il a véritablement effectué des miracles. Il les a faits dans un but précis, et dès qu'on les place dans leur contexte propre ainsi que dans leur perspective réelle, on n'éprouve plus aucune difficulté à les admettre. Nous avons donc certains facteurs présents à l'esprit. Et j'aimerais maintenant parler de ce que le Seigneur a parfois catégoriquement refusé de faire, certains miracles. Peut-être n'avez-vous jamais pensé à cela. Et c'est précisément la raison qui m'a poussé à vous en parler aujourd'hui, car vous allez voir également que cela va renforcer notre foi. Matthieu dans son chapitre 4, nous parle des tentations que Satan fait subir au Seigneur. Il lui dit, entre autres, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent tes pains. » Jésus venait de jeûner pendant 40 jours, 40 nuits, et la phrase du prince des ténèbres est particulièrement insidieuse et perfide. Mais Jésus répond aussitôt en citant l'Ancien Testament. Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le maître n'accomplit donc pas ce miracle, relativement simple à faire pour lui, car il n'eût pas été conforme à la volonté de Dieu. Un tel prodige eût été vain, car Jésus aurait utilisé sa puissance dans un but nettement personnel et égoïste, d'ailleurs. Que penserions-nous en lisant le récit d'un tel miracle? Jésus savait très bien qu'il n'aurait rien accompli de valable en se laissant aller à apaiser sa faim au moyen d'un miracle. La vanité humaine, ainsi d'ailleurs que la satisfaction de désirs matériels, ne pouvait avoir de prise sur lui. Il se refuse donc à faire ce miracle-là. En Luc chapitre 9, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, demandent à Jésus de punir ceux qui refusent de les loger en faisant un miracle. « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume, disent-ils ? » Les Samaritains n'avaient pas reçu Jésus et ses disciples. Ils auraient vu avec grand plaisir leur village détruit. Bien des siècles auparavant, le prophète Élie avait lui aussi appelé le feu du ciel, mais dans des circonstances tout à fait différentes. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, et ils allèrent dans un autre bourg. Un miracle comme celui-là, effectué pour une telle raison, eût été également tout à fait vain et contraire à la volonté divine. Le Fils de Dieu ne l'accomplit donc pas. Tournons-nous vers le 26e et le 27e chapitre de Matthieu, où nous trouvons encore trois possibilités de miracles que Jésus rejette. Dans le jardin de Gethsémané, la foule et un groupe de soldats conduits par Judas viennent vers Jésus pour s'emparer de lui. L'apôtre Pierre tire son épée pour protéger son maître. Mais Jésus lui dit, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Le verset 54 de Matthieu 26 nous dit « Pourquoi Jésus n'utilisa pas cette faculté pour faire un miracle à ce moment-là » Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi, dit-il. La raison en est qu'il ne voulait pas contrevenir à la volonté de son Père. Il refuse donc de faire un prodige dont l'inutilité est évidente quand on considère le dessein de Dieu. Dans les versets 67 et 68 de Matthieu 26, nous pouvons également lire que le Christ fut amené chez Caïphe, le souverain sacrificateur. Là, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé !» Jésus eut très bien pu le faire, car il avait le pouvoir de lire la pensée de ceux qui se trouvaient autour de lui. Il ne le fit cependant pas, car c'eût été contraire à ce que Dieu avait prévu. Il n'existait en Christ aucune vanité égoïste, et il ne cherchait nullement à se protéger physiquement. Il était bien au-dessus de toutes ces contingences-là. Alors que Jésus était cloué sur le bois, ses tortionnaires s'écrièrent encore, « S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui !» Même ce miracle-là, Jésus ne l'a pas fait non plus. Qui pourrait aujourd'hui croire qu'il s'est volontairement donné au monde s'il était descendu miraculeusement de sa croix? Qui pourrait croire qu'il avait vécu dans le seul but de mourir pour nos péchés s'il avait accepté le défi de faire ce miracle? Répétons-en une fois encore que les miracles accomplis par le Fils de Dieu avaient pour but de confirmer son message et sa mission, pas par égoïsme, pas par vanité. Aucun d'entre eux n'était vain, jamais. Leur unique dessein était d'inciter ceux qui le voyaient à croire que Jésus était bien le fils du grand architecte de l'univers. Jésus, comme nous venons de le voir, se refusait absolument à faire des miracles qui n'entraient pas pleinement dans les vues de son Père, par caprice, ou qui n'auraient pas tout simplement servi à quelque chose. Alors, comment se fait-il que les hommes enseignent le contraire et agissent comme si Dieu allait de nos jours faire ce que Christ lui-même ne voulait pas faire lorsqu'il était sur la terre? Je veux dire, pourquoi les êtres humains attendent-ils des miracles qui sont contraires à la volonté de Christ, telle qu'elle est révélée dans ses enseignements? Dans le Nouveau Testament, on ne trouve nulle trace de la conversion miraculeuse. Il n'existe que des circonstances miraculeuses conduisant à certaines conversions, telles celles de Saul de Tarse ou de Corneille, mais jamais un miracle n'a sauvé quelqu'un de ses péchés. Chaque converti devait obéir personnellement à l'Évangile. Saul ne fut sauvé ni par la lumière qui lui apparut, ni par la voix de Jésus qui l'interpellait. Non, le Seigneur lui a dit, « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira ce que tu dois faire. » De même, Pierre, qui avait été envoyé vers Corneille, lui dit que Dieu ne fait point exception de personne, et lui ordonna d'être baptisé. Certains se figurent qu'il existe une sorte de salut accordé par Dieu aux non-croyants. On enseigne même très souvent que tous les êtres humains seront sauvés, qu'aucun ne connaîtront la perdition. Et pourtant, l'Écriture ne dit-elle pas, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Certains enseignent qu'il suffit de croire pour être sauvé. Pourtant, Jésus a dit clairement, « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. » Ceux qui enseignent la nécessité de la foi doivent absolument reconnaître que la repentance est elle aussi indispensable. La foi seule ne peut sauver personne, et je n'en veux pour preuve que les paroles de Jésus disant « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » L'apôtre Pierre répondit à ceux qui lui demandaient ce qu'il devait faire pour être sauvé, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Le verset 41 du même chapitre 2 des Actes nous dit que « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Aucun d'entre eux n'attendait un miracle qui eût été contraire à la parole qu'on leur avait prêchée. »